RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Présence Réformée, l'émission des protestants de l'Ouest, et c'est David qui est au micro. Je vous propose d'explorer aujourd'hui avec mon invité Gilles Carbonel les relations entre Internet et religion. Carbonel, bonjour. Vous vous définissez vous-même comme un paroissien de base de l'église réformée de Saumur. Vous avez dirigé un temps la publication bien connue de nos auditeurs protestants, Le Protestant de l'Ouest. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là avec nous aujourd'hui. Vous êtes co-auteur d'un livre qui paraîtra ces prochains jours, Une bonne foi pour toutes. Un livre écrit donc avec la complicité de Gilles Castelnau, et qui paraîtra aux éditions La Barre Franche. Internet occupe une place croissante dans nos communications sociales, dans notre rapport au monde, dans notre rapport à l'information. Et les questions de la foi, les questions de religion sont bien sûr très présentes. On peut dire par une boutade que Jésus habite aussi Internet, puisqu'il y a 180 millions de pages référencées par Google le concernant. Nous avons tous, enfin presque, ce réflexe de nous tourner vers Internet pour obtenir des réponses à nos questions, alors qu'elles soient grandes ou petites, triviales ou spirituelles. Pour écrire ce livre, Une bonne foi, F-O-I, pour toutes, vous avez constitué un vaste corpus, un vaste ensemble de questions qui touchent à la religion chrétienne. Questions posées par des internautes sur le portail Yahoo, questions-réponses. Pouvez-vous, pour commencer tout simplement, nous expliquer l'origine de ce projet ?
Alors, comme c'est souvent le cas, on cherche quelque chose, on ne le trouve pas, et donc on se dit, bon, puisque ça n'existe pas encore, je vais le faire. J'ai commencé par fréquenter ce forum pour avoir des réponses à des questions théologiques. Il se trouve que je suis par ailleurs prédicateur laïque à l'église de Saumur, l'église réformée de Saumur. Donc, j'avais des besoins pour des prédications. Je suis allé fouiller. J'ai pas toujours trouvé les réponses qui me convenaient. En revanche, j'ai fait la connaissance d'un pasteur qui est retraité, mais qui, comme tous les retraités, continue à avoir une grosse activité. Un pasteur qui fait de l'évangélisation. Il est sur... Il s'astreint, je le connais par ailleurs, il s'astreint à répondre à au minimum 2 questions par jour avec sa sensibilité à lui, hein, puisque c'est un pasteur protestant dit libéral. Et donc je me suis mis, comme je trouvais ses réponses intéressantes, je me suis mis à les suivre assez régulièrement. Et puis un jour, j'ai réalisé que cet homme-là avait, en un peu plus de 5 ans, avait répondu à près de 10 000 questions. Donc c'était un monument, et je me suis dit, c'est quand même dommage de laisser perdre tout cet enseignement. Donc j'en ai parlé avec lui, et on a conçu le projet de faire un livre, d'en faire une espèce de synthèse de toutes ces questions-réponses. Alors j'ai repris ces 10 000 questions. J'ai lu non seulement ses réponses à lui, mais celles des autres aussi, ce qui représente entre 50 et 100 000 réponses, évidemment. Et puis, après, c'est du travail d'analyse simple, hein, c'est les regrouper par thème et en faire une synthèse. En revanche, au passage, ça m'a permis de découvrir pas mal de choses sur tous ces internautes qui venaient et qui posaient des questions, ou quelquefois c'est des fausses questions, c'est des affirmations. Mais en tout cas, il y a une, comme vous disiez, c'est très touffu, il y a une faune tout à fait extraordinaire. Donc parallèlement à la réalisation du livre, c'est vrai que je me suis beaucoup interrogé sur toutes ces personnes.
10 000 questions et 100 000 réponses, c'est évidemment très impressionnant. On est face à un outil manifestement de diffusion, d'évangélisation, ce sont incontestables. Alors on se prend à rêver et se dire, est-ce que Internet pourrait être, comme l'imprimerie l'a été en son temps, hein, notamment autour de la réforme, Internet serait-il aujourd'hui un outil privilégié d'évangélisation ?
Il y a beaucoup de choses, et vous avez raison de faire le parallèle avec ce cher Gutenberg qui a permis à beaucoup de gens de lire la Bible. C'est vrai que, exactement comme la chose imprimée, Internet peut servir à plusieurs thématiques. Bien sûr, l'évangélisation, ça peut... Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est grosso modo la moitié des églises, en tout cas des églises chrétiennes, ont un site internet. Il n'y a pas grand chose à tirer de ces sites, c'est surtout pour donner les horaires des cultes, expliquer ce que sont les divers rituels, qu'est-ce que c'est que le baptême, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer son mariage, etc. Donc c'est pas très... Disons que c'est pas destiné à faire réfléchir. Le deuxième point, c'est effectivement faire une espèce de catéchèse pour des gens qui sont plus en âge, théoriquement, de suivre des cours de catéchisme. Et puis le troisième point que je vois, et c'est peut-être plus subtil, on peut prendre la pratique religieuse comme une façon de se faire partie d'une communauté, hein, de se conformer à des usages, une façon de suivre une morale aussi, c'est-à-dire de savoir qu'il y a des choses permises, des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, donc un peu un catalogue d'obligations et d'interdictions. Mais on peut aussi prendre ça, non pas comme une morale, mais comme une éthique, c'est-à-dire donner à tout un chacun les moyens, l'outillage mental pour savoir ce qui est bien pour lui, pour l'aider à vivre, pour l'aider à être plus fraternel, à être plus souriant vis-à-vis de son prochain, y compris de ceux qui lui sont éventuellement antipathiques. Donc, mais ça, c'est rien d'autre que l'enseignement de Jésus, si on réfléchit bien. Jésus disait, moi ça m'est égal ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas, je ne vous demande pas si vous repentez de vos péchés, mais en revanche, aime ton prochain et aime Dieu et aime ton prochain.
Sur Internet et en particulier sur les forums de discussion, on peut avoir l'impression d'un grand bazar, d'un grand mélange où tout égale tout, où tout se mélange et où des anonymes parlent à d'autres anonymes. Dans cette relation, à qui je parle, quelle est l'autorité de celui qui me répond, quel est son niveau d'information, sa légitimité peut-être pour me répondre, qu'est-ce que je fais de sa réponse? Ces questions-là se posent de façon centrale sur Internet.
C'est le problème, effectivement, c'est le problème dont les églises devraient se préoccuper. Parce que, effectivement, il y a des sites qui sont farfelus, des sites fantaisistes, des sites éventuellement dangereux, des sites malfaisants. Enfin bon, il y a un peu de tout. Il n'y a pas encore, en tout cas, elles ne durent pas pour l'instant en France, des cyber-églises, hein, des églises purement artificielles, purement virtuelles. Il y a eu une petite avancée dans cette direction avec le site de Monseigneur Gaillot, comment s'appelait-il ? Il s'appelait Parthenia, mais je crois qu'il a disparu. En tout cas, Monseigneur Gaillot ayant trouvé qu'il était trop vieux maintenant pour continuer, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pris la suite. Mais en tout cas, il n'y a pas de cyber-église. Il y a quelques sites un peu de propagande. On a cybercuré, par exemple. Il y a des choses comme ça. Donc, les, Les églises évangéliques sont très présentes, et puis c'est normal, c'est leur pratique habituelle. Mais c'est vrai que les églises, si on parle des églises issues de la Réforme, par exemple, elles sont présentes de façon très, très apathique, hein, très passive, hein, juste dire, répéter toujours ce qu'elles répètent depuis toujours et ce qu'on trouve dans n'importe quel livre. Effectivement, la question qu'elle devrait se poser, c'est s'il y a des gens... Ce qui est inquiétant, c'est non pas qu'il y a des gens qui aillent sur des sites fantaisistes ou dangereux, c'est que s'ils y vont, c'est que les églises n'offrent pas de théologie accessible et qui les intéresse et qui répondent à leurs préoccupations, etc. C'est pour ça que ces gens-là y vont. Mais ce n'est pas spécial à Internet. On avait ça aussi, avant qu'Internet ne se réponde, on avait ça avec les séminaires, vous savez, les séminaires de développement personnel. Passer des week-ends pour parler de Jésus, pour se purifier. Il y avait des tas de choses complètement... ce qu'on appelait les mystiques ésotériques, ça existait déjà. Et ils sont dangereux. Mais pourquoi sont-ils dangereux? C'est parce que les églises n'ont pas de réponse claire et intéressante à proposer.
Donc pour vous, ce qui se joue sur Internet, c'est plus un révélateur d'une incapacité des églises aujourd'hui à être à l'écoute, à trouver des réponses justes, à ouvrir autrement leurs portes pour rendre la parole accessible.
Les églises ne peuvent pas jouer ce rôle de proposition envers des personnes qui ne sont pas croyantes, des personnes qui doutent, des personnes que j'appelle souvent les hausseurs d'épaule, des athées convaincus, voire des athées intégristes, et puis des personnes d'autres religions ou d'autres confessions. Les églises ne peuvent pas aisément répondre à ces problématiques. Donc je dirais que les églises, et même les chrétiens, tout un chacun, devraient être présents sur le net, non pas pour dire la bonne pratique de telle ou telle religion, dire voilà comment il faut faire, religion ou confession. On trouve souvent ça... justement l'explication des sacrements, la position de la hiérarchie sur tel ou tel point. Il y a eu abondamment des exemples ces derniers mois sur des prises de position comme ça. Les églises et les chrétiens et tout un chacun qui peut le faire devraient être là pour essayer d'humaniser. Alors humaniser les échanges humains, échanges humains entre personnes, quelle que soit leur religion ou leur foi ou leur absence de foi ou leur spiritualité, des échanges humains d'une manière qui soit juste. C'est-à-dire convaincre chacun qu'on a, à la lecture de la Bible et en la lisant de façon critique, hein, non pas de façon mécanique, on a tout ce qu'il faut pour se faire son point de vue et guider son attitude vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de la vie en société, vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de tout, vis-à-vis de sa famille, etc. Donc les églises actuellement ne peuvent pas s'adresser aux athées, ne savent pas s'adresser aux athées. Ne savent pas s'adresser à ceux qui doutent. Écoutez, j'ai été président d'un journal protestant régional pendant un an ou deux. Ce qui m'a le plus choqué dans un courrier de lecteur, c'est quelqu'un qui me disait « Je me désabonne parce que votre journal s'adresse à des croyants convaincus. Pour ceux qui doutent, il n'y a rien. » Eh bien, Internet est bien dans ce problème-là. La présence chrétienne sur Internet est bien dans ce problème-là. Pour ceux qui doutent, qu'est-ce qu'il y a? Pour ceux qui sont hostiles, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on leur dit? Pour les gens qui sont d'une autre religion, d'une autre confession, pour des raisons historiques, parce que leur famille était comme ceci ou comme cela, qu'est-ce qu'on leur dit? Donc quelque part, il y a du travail à faire pour humaniser les relations.
Sur les forums de discussion, quelle que soit la thématique, on observe tendanciellement, je dirais, une focalisation sur les positions extrêmes, un renforcement des positions extrêmes qui fait que, de discussion, nous avons plus un affrontement de positions radicales. Évidemment, quand on est autour des questions de religion, cette radicalisation apparaît de façon très forte et potentiellement dangereuse, non ?
Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'Internet, c'est un peu le repère du fondamentalisme. En tout cas, les fondamentalistes, ils sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus actifs que les modérés. Vous savez, des fondamentalistes, il y en a dans toutes les religions, toutes les confessions. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que la répartition de la société ne se fait plus tellement sur le plan spirituel, j'entends, ne se fait plus tellement sur qui est catholique, qui est protestant, musulman, juif, athée, etc., mais se fait sur le critère fondamentaliste ou libéral. Aujourd'hui, la différence entre un fondamentaliste, pour ne pas dire un intégriste, fondamentaliste catholique ou protestant évangélique, ou musulman, juif, je ne saurais pas dire parce que je connais très très mal le milieu juif, mais athée aussi, il y a un fondamentalisme athée. Les différences sont extrêmement minces, même s'ils ont l'impression de se détester entre eux et de se combattre les uns les autres. En réalité, ils disent tous la même chose. Il y a des fondamentaux, ça se dit dans tous les milieux, il y a des fondamentaux qu'on ne doit pas discuter. Et si je crée un site internet parce que je tiens à ces fondamentaux, forcément, je vais essayer de convaincre tout le monde que ces fondamentaux sont non pas les meilleurs pour moi, tout le monde a ses propres fondamentaux, mais qui sont universels. Entre parenthèses, le mot universel veut dire tourner vers une seule personne. Et en général, c'est plutôt le nombril de celui qui énonce ses vérités dites universelles. Donc, les fondamentalistes de tout poil ont la même pratique. Les libéraux ont, en revanche, qu'ils soient catholiques, protestants, non-chrétiens, juifs, etc. Et là, je sais qu'il y a des libéraux juifs et musulmans, et des athées et libéraux. Ceux-là vont avoir toujours à peu près la même réaction, c'est « Ah tiens, tu crois autre chose que moi ? Raconte-moi, ça m'intéresse. » Et donc, Internet est beaucoup plus squatté par des fondamentalistes que par des libéraux.
Sans faire une sociologie fine des internautes qui interviennent sur ces forums de discussion, est-ce que vous pourriez dégager des grandes tendances, des grandes figures d'internautes que l'on retrouve sur un portail comme Yahoo Questions-Réponses?
Internet a apporté un glissement d'une population à l'autre par rapport à ce goût pour la spiritualité. Avant Internet, on avait quand même essentiellement des gens d'âge mûr, on va dire, je dirais du cadre, les catégories socio-professionnelles plutôt élevées, moyen supérieur. Là, c'est des études sociologiques, hein, c'est pas mon suivi sur Internet qui me dit ça. Ça a été montré, c'était plutôt ces gens-là qui étaient en recherche d'un sens à leur vie. Ils disaient, bon, je fais ma carrière, mais est-ce que ça a du sens, tout ça ? Aujourd'hui, on voit un deuxième groupe très important de population, ce sont les jeunes, disons jusqu'à 25 ans, qui se posent plein de questions et qui posent beaucoup de questions. Et ces gens-là, bien entendu, ces populations autrefois n'auraient pas fait les frais d'un séminaire de réflexion spirituelle ou de pensée positive, de développement personnel, comme on disait. Donc la présence des jeunes est très importante sur ces questions-là. Je dirais qu'après 25 ans, on a grosso modo un blanc, mais qu'on retrouve dans toute la société entre 25 et 45 ans. 50 ans, les gens ont largement de quoi... des préoccupations qui les occupent suffisamment, hein, les enfants, le métier, la carrière, le chômage, l'appartement ou la maison à payer, etc. Donc, mais avant 25 ans et après 50 ans, on trouve ces personnes-là effectivement en train de soit poser des questions, soit répondre à des questions.
Est-ce que vous pourriez, Gilles Carbonel, nous présenter les principales catégories de questions que l'on va retrouver sur ce site, sur ce portail Yahoo Questions-Réponses?
Oui, alors on a effectivement fait ce travail parce qu'il fallait regrouper toutes ces questions par rubrique, par chapitre, par thème. Bon, ça ne vous étonnera pas de savoir que le plus grand nombre de questions étaient sur Dieu. Mais on a énormément de questions sur les miracles et énormément de questions, et ça m'a surpris, énormément de questions sur l'enfer et le paradis. Alors il y a beaucoup de choses comme est-ce que je peux faire ceci ou cela sans risquer l'enfer? Bon, pour l'anecdote, on a des questions comme si je mange du chorizo au petit déjeuner du vendredi saint, est-ce que je vais aller en enfer? Bon, la seule réponse à faire, c'est vraiment, est-ce que vous mangez du chorizo au petit déjeuner? Mais effectivement, il y a une immense préoccupation, et ça c'est les plus jeunes, à propos de l'enfer. Pas tellement sur le paradis, il faut bien dire, mais dès que si je fais un écart, si je mens, si j'oublie de dire ou de faire cela, si je respecte pas tel rite, est-ce que le baptême va me protéger de l'enfer, etc. Là, on trouve quand même les traces de dizaines de générations, après ce brave saint Augustin, sur le péché originel, sur la culpabilité, etc. Donc, ça, c'est Dieu et l'enfer, c'est ce qui préoccupait immensément. Sinon, on trouve beaucoup de questions de curiosité. Quelle différence il y a entre un catholique et un protestant, entre qu'est-ce que c'est que les témoins de Jéhovah? Ça intéresse beaucoup les témoins de Jéhovah. Quels sont les différents livres de la Bible? Est-ce que la Bible protestante et la Bible catholique sont les mêmes, etc. Enfin, bien entendu, il y a aussi beaucoup d'attaques là-dessus pour dire que d'attaques d'origine musulmane, hein, pour dire que la Bible a été falsifiée et que Dieu a été obligé d'en redicter une autre en l'appelant le Coran. Mais donc voilà, il y a beaucoup de questions touchant, alors avec un petit arrière-pensée moraliste, touchant à Marie, la Vierge Marie, comme on dit. Est-ce qu'elle était vierge? Est-ce qu'une jeune fille doit rester vierge? Est-ce que c'est un avantage d'être vierge? Il y a énormément de questions. Et là aussi, de très jeunes gens, surtout des garçons, il faut bien dire, que ça préoccupe beaucoup, hein, cette histoire de virginité. Donc là, les églises devraient avoir quelque chose à raconter à ça. Et puis, bien sûr, des questions sur des thèmes de société, le mariage homosexuel, le mariage des prêtres, la pédophilie. Enfin bon, il y a énormément de choses comme ça. Mais c'est surtout les deux grands gagnants de cette liste de questions, c'est Dieu et l'enfer. Hein, avec tout ce qui va avec, hein, le diable, les anges, les djinns, les lutins, les mauvais génies, etc.
Une fois que l'on a fait le constat de la difficulté pour les églises d'être présent et entendu sur Internet, une fois que l'on a identifié quels étaient les grands domaines d'interrogation de nos contemporains autour des questions de la foi qui peuvent difficilement être prises en charge par les acteurs et les institutions classiques, comment envisagez-vous alors une réponse à cela aujourd'hui? Comment se saisir de cette soif de spiritualité qui habite nos contemporains pour cheminer avec eux?
C'est un peu... Cette question pourrait être posée aussi dans le domaine de l'entraide, par exemple. Quand vous... Alors, il y a des institutions d'entraide, il y a la CIMAD, il y a les entraides des différentes églises, mais il y a SOS Amitié, enfin bon. Mais ce sont des réponses collectives, des réponses communautaires. Et puis, quand vous parlez avec un groupe de protestants, vous leur demandez ce qu'ils font, vous apercevez que presque chacun fait quelque chose de son côté, des choses dont ils ne parlent jamais, mais qui finissent par compter. Donc, autant je ne crois pas que les églises soient bien armées spirituellement et peut-être intellectuellement pour apporter des réponses, autant je crois beaucoup au travail de fourmi de tout un chacun. Il y a une histoire que je raconte souvent sur ce sujet, c'est l'histoire d'un grand incendie dans la forêt amazonienne qui détruit des milliers, des millions d'hectares, et les animaux sont terrorisés, ils sont figés sur place, ils ne bougent plus. Il y a un petit colibri qui va prendre trois gouttes d'eau, c'est pas gros un colibri, un bec de colibri, il prend trois gouttes d'eau dans son bec et il va les jeter sur l'incendie, et puis il revient, puis il en prend, puis encore et encore et encore. Au bout d'un certain temps, il y a d'autres animaux qui lui disent « mais c'est ridicule, ça sert à rien ce que tu fais ». Il dit « oui, je sais que ça sert à rien, mais je fais ma part ».
Ainsi s'achève Présence Réformée. Merci beaucoup Gilles Carbonel d'avoir passé cette émission avec nous. Je rappelle que votre livre « Une bonne foi pour toutes » paraîtra très prochainement aux éditions La Barre Franche. Au revoir et à très bientôt.